Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Jean-Michel Blanquer regrette la symbolique de ses vacances à Ibiza quand il a annoncé le protocole sanitaire à l'école. Le ministre de l'Éducation répondait cet après-midi à l'opposition.
Les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés. Reportage à suivre dans une station-service à plus de 2 euros le litre. On vous expliquera aussi pourquoi cette flambée est partie pour durer. Jean Castex donne un nouveau coup de pouce aux restaurateurs. Toujours pénalisé par les restrictions sanitaires. Revue de détails à suivre. Un rebond des naissances, une espérance de vie en hausse. Après 2 ans de Covid, la dernière photo démographique de la France donne de l'espoir.
Un mot de la tendance météo avec Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Alors changement de temps, demain, l'anticyclone qui protège la France va faiblir et se décaler. Il fera gris et humide sur les trois quarts du pays avec des bruines ici et là et même quelques flocons entre le massif central et le nord-est. On en parle à la fin du journal. Europe 1.
Jean-Michel Blanquer a dû répondre au tollé dans la classe politique après ses vacances à Ibiza.
Un symbole qui passe mal dans l'opposition. Le ministre de l'Éducation a bouclé le protocole sanitaire de la rentrée à Ibiza. La carte postale contraste évidemment avec le chaos à l'école et la colère des profs. Cet après-midi à l'Assemblée, la réponse de Jean-Michel Blanquer.
D'abord, est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année ? Est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça? Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs? Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, Madame la députée, depuis 2 ans, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
Jean-Michel Blanquer cet après-midi dans l'hémicycle. Alors je me tourne vers vous, Alexandre Chauveau. Jean-Michel Blanquer assure avoir rempli sa tâche à 100%, mais c'est bien le poids du symbole qui l'a poussé à s'expliquer.
Oui, parce qu'évidemment, Ibiza est associé à la fête, au luxe et à l'excès, même si c'est une île très calme en hiver. Mais le symbole est là, et de l'aveu même du ministre, une telle polémique n'aurait sans doute pas éclaté avec un choix de destination moins clinquant. Alors si Jean-Michel Blanquer est autant controversé, c'est parce que l'information sur Ibiza est venue cristalliser une colère qui ne faiblit pas depuis 15 jours. Les oppositions, les enseignants et les parents d'élèves lui reprochent d'avoir dévoilé le nouveau protocole sanitaire la veille de la rentrée scolaire dans un entretien accordé aux Parisiens. Un protocole jugé beaucoup trop contraignant et allégé à 2 reprises depuis.
Alors on voit le ministre de l'Éducation fragilisé, Alexandre, mais à 3 mois de la présidentielle, l'Élysée ne veut pas prendre le risque de le désavouer.
Oui, parce que Jean-Michel Blanquer a longtemps été considéré comme un des bons élèves du gouvernement, très apprécié par Brigitte Macron. Il incarnait aussi jusque récemment un courant de la Macronie capable de parler à l'électorat de droite. C'est d'ailleurs en cette qualité que le président souhaite le garder à ses côtés, même si le ministre apparaît affecté et très isolé au sein du gouvernement. Très peu de poids lourds de la majorité se sont en effet bousculés pour prendre sa défense. Une situation qui dure et se détériore depuis l'été 2020, date à laquelle Jean-Michel Blanquer avait échoué à être nommé ministre de l'Intérieur.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Arnaud Montebourg jette l'éponge. Le candidat de la remontada va annoncer le retrait de sa candidature à la présidentielle. Ce sera dans une vidéo qui sera diffusée dans les heures qui viennent. Arnaud Montebourg était crédité de 1% dans les sondages. L'entrée en liste de Christiane Taubira a encore accentué la dispersion des voix à gauche.
Une dépense incontournable et qui plombe le budget des Français. Les prix à la pompe continuent de battre des records.
Et oui, faire le plein d'essence ne vous a jamais coûté aussi cher. Pour la première fois, le gazole franchit 1,60€ le litre et c'est une moyenne. On vous emmène dans une station-service de l'Est de l'Île-de-France. Ici, le sans-plomb 98 vous coûte plus de 2€ le litre, Marion Gauthier.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de voitures défilent ici, ralentissent devant les pompes et repartent aussitôt, comme s'il était difficile pour les automobilistes de croire que la barre symbolique des 2€ le litre d'essence est passée. Djibril semble incrédule en voyant le compteur des prix monter 2 fois plus vite que celui du sans-plomb 98.
Pour 2€, c'est facile à calculer, mais dans le compte bancaire aussi, c'est difficile à vivre avec. Et c'est incroyable, mais on fait avec, on n'a pas le choix. C'est sur la route, là, je suis en réserve, il reste peut-être 5 km. Je suis obligé de mettre le plein.
Mario aussi était à sec, mais impossible pour lui de faire le plein. Il remplit juste assez son réservoir pour tenter sa chance à l'ère suivante.
Pour 10€, vous avez à peine 5 litres. Ça fait mal le portefeuille. C'est horrible. Il y a 120€ en plus au mois. Ah, ça nous fait perdre à côté pour l'alimentation ou des trucs comme ça. À la fin du mois, oui, on est assez court.
L'utilisation de la voiture réduite à son minimum pour ce père de famille qui travaille dans l'automobile, inquiet de voir son budget carburant grimper de semaine en semaine.
Reportage Marion Gauthier. Les prix de l'essence sont donc dans une spirale à la hausse. Chaque record est battu la semaine suivante. Emmanuel Duteil, pourquoi ça monte encore ?
Eh bien tout simplement parce que l'activité économique se porte bien et on a donc tout simplement besoin de pétrole pour faire tourner les usines à plein régime et pour faire voler les avions, pour faire rouler les camions, pour importer tous les produits. Et ça va même un petit peu mieux que ce qui était prévu à un moment puisque malgré le développement d'Omicron, l'activité économique ne s'arrête pas bien loin de là. Et c'est là le problème parce que ça coince du côté de la production qui, elle, ne suit pas. Il y a des problèmes en Libye ou au Nigeria. La situation à la frontière ukrainienne ou au Yémen inquiète également les investisseurs. Du coup, le prix du baril de pétrole s'envole. Pour le Brent, c'est-à-dire pour le pétrole produit dans la mer du Nord, on a atteint ce matin des records de 2014. C'est toujours compliqué, hein, bien sûr, de prévoir l'avenir. Ça dépend de tellement de facteurs. Mais si l'on en croit les experts des banques américaines, JP Morgan ou Goldman Sachs, le prix du baril de pétrole va continuer de progresser fortement dans les semaines à venir. Et donc, malheureusement, on peut s'attendre à de nouvelles hausses des prix à la pompe.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Le journaliste Jean-Jacques Bourdin, visé par une enquête pour agression sexuelle. L'annonce du parquet de Paris fait suite à la plainte d'une ancienne journaliste de BFM et RMC. Elle accuse Jean-Jacques Bourdin d'avoir tenté de l'embrasser à plusieurs reprises dans une piscine à Calvi en 2013. L'intervieweur vedette nie les faits.
Jean Castex vient de dévoiler les nouvelles aides pour les restaurateurs, Alexandre.
Oui, le Premier ministre vient d'annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'hôtellerie-restauration. Carole Ferry, c'est un secteur toujours pénalisé par les restrictions sanitaires.
Oui, ça concerne tous ceux qui sont touchés par l'absence de touristes ou le télétravail, par exemple, qui prive notamment les restaurants de déjeuner le midi. Alors, le gouvernement avait déjà annoncé une prise en charge des coûts fixes pour les entreprises qui perdent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. Eh bien, il rajoute ce soir de nouvelles mesures pour les entreprises de moins de 250 salariés qui perdent au moins 30% de leur chiffre d'affaires, l'État prendra en charge 20% des salaires de leurs employés. Une manière également d'amortir l'accord sur la hausse des salaires dans cette période difficile. Enfin, pour les entreprises les plus touchées, celles qui perdent au moins 65% de leur chiffre d'affaires, Jean Castex annonce une exonération totale des charges patronales. Cela concerne donc l'hôtellerie-restauration, mais aussi l'événementiel ou encore les agences de voyage.
Carole Ferry.
Voilà, restez avec nous. Dans un instant, la France fait des bébés malgré la crise sanitaire. C'était une bonne nouvelle. Et puis le projet de Marine Le Pen pour l'Europe. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h avec Alexandre Lemaire. Alexandre, quel est le visage de la France après 2 ans de Covid ? L'INSEE vient de publier son dernier bilan démographique.
Et on y découvre plusieurs nouvelles encourageantes. Céline Géraud, d'abord, en ce qui concerne la natalité, le baby crash a été évité.
Absolument. Les cigognes ont bien travaillé. 738 000 bébés sont nés en 2021. C'est 3 000 de plus qu'en 2020. Pourquoi ? Eh bien, souvenez-vous, le premier confinement, les incertitudes économiques avaient méchamment entamé l'envie de procréer des Français. Mais dès l'automne, eh bien, ce désir d'enfant a ressurgi avec une flambée des naissances depuis l'été dernier. Plus de bébés, plus de mariages aussi, plus 42%. Un boom naturellement lié à la fin de l'interdiction des cérémonies en 2021. L'autre enseignement de ce bilan de l'INSEE, c'est la baisse de la mortalité. 12 000 décès de moins cette année. Mais attention, nous sommes encore en surmortalité par rapport à 2019. Les raisons, évidemment, l'épidémie de Covid-19 et puis le vieillissement de la population. Conséquence, notre espérance de vie remonte légèrement. 85,4 ans pour les femmes qui gagnent 3 mois de plus qu'en 2020 et 79,3 ans pour les hommes qui de leur côté gagnent 2 mois. Alors c'est un peu tôt évidemment pour s'enflammer, mais ces différentes données indiquent un léger frémissement qui semble annoncer que le pire est peut-être derrière nous.
Toujours des nouvelles bonnes à prendre. Merci Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Le pass sanitaire a permis de sauver 4000 vies au deuxième semestre 2021. C'est une note du Conseil d'analyse économique selon laquelle le pass a fait progresser le taux de vaccination de 13 points, ce qui a ainsi empêché une surmortalité liée au Covid.
Marine Le Pen tenait aujourd'hui une conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne.
La candidate RN qui grille la politesse à Emmanuel Macron. Le président doit s'adresser demain au Parlement européen dans ce cadre. L'Europe était en 2017 l'un des points faibles de Marine Le Pen. 5 ans plus tard, changement de logiciel. La candidate s'oppose en protectrice des peuples face aux européistes. Victor Chabert.
Exactement. Marine Le Pen veut faire oublier ses choix de 2017 sur l'Union européenne, notamment la sortie de l'euro qui avait fait peur à de nombreux électeurs. On l'écoute.
Le débat sur la sortie de l'euro, nous l'avons tranché en 2017. nous avons renoncé. Parce qu'en réalité, la politique qui a été menée par la BCE a, elle, totalement changé. Concernant Schengen, je n'ai absolument pas renoncé à retrouver la maîtrise de nos frontières nationales. Quant à la Commission européenne, je persiste à penser qu'en aucun cas, elle ne doit avoir les pouvoirs qu'elle s'est elle-même octroyés.
Marine Le Pen justifie donc ce changement en raison, selon elle, d'une réorientation monétaire et politique des institutions européennes ces dernières années. Elle veut désormais peser de l'intérieur et espère pour cela compter sur ses alliés de l'Est, la Pologne ou la Hongrie, gouvernés par des eurosceptiques. En revanche, sa ligne reste la même sur le fond. Elle promet une Europe des nations, la supériorité du droit français sur le droit européen et un retour des frontières nationales. L'antithèse de ce que propose Emmanuel Macron, une façon également pour la candidate RN d'essayer de recréer le duel face au président de la République.
Victor Chabert. La Russie peut maintenant attaquer l'Ukraine à tout moment, si l'on en croit la Maison-Blanche. Washington décrit une situation extrêmement dangereuse et précise qu'aucune option n'est exclue côté américain pour répondre à une éventuelle invasion russe en Ukraine.
Microsoft sort le carnet de chèques et rachète l'un des géants mondiaux du jeu vidéo.
Activision Blizzard possède des licences très populaires chez les joueurs, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush. Microsoft a mis près de 69 milliards d'euros sur la table. C'est tout simplement du jamais vu dans le jeu vidéo, Aurélien Fleureau.
Oui, et cela vient surpasser le précédent record pourtant tout récent. C'était il y a 8 jours, l'éditeur Take-Two annonçait le rachat du spécialiste du jeu pour téléphone Zynga. C'était près de 13 milliards d'euros et là c'est donc 5 fois plus que Microsoft va débourser pour s'offrir le géant américain des jeux vidéo Activision Blizzard et donc devenir un acteur majeur de cette industrie derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Jamais Microsoft n'avait réalisé d'acquisition aussi onéreuse, mais il fallait bien cela pour exister face à la concurrence et à coup de rachats successifs, la stratégie c'est de construire une plateforme incontournable, un Netflix du jeu vidéo grâce au Game Pass qui permet de télécharger les jeux sur Xbox ou sur ordinateur. Un rachat qui survient alors qu'Activision traverse une période de turbulence depuis plus de 6 mois. Les accusations de sexisme, de harcèlement, de discrimination se succèdent. 40 salariés ont été licenciés, une quarantaine d'autres font l'objet de mesures disciplinaires. Le PDG semblait sur la sellette, il sera désormais encadré par le patron de la branche jeux vidéo de Microsoft.
Aurélien Fleureau, les handballeurs français touchent du bois et font des tests. Le défenseur Karl Konan positif au Covid alors que les Bleus abordent le tour principal de l'Euro 2022. Karl Konan va donc manquer les deux prochains matchs. Ça se passe plus mal encore chez les handballeurs allemands. Cluster dans leur rang avec 9 cas de Covid au sein de l'équipe. L'Allemagne envisage de se retirer de la compétition.